J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 47e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir dans les salons de la librairie Buffet à Oyonnax le journaliste et auteur Emmanuel Defoulois, dont le dernier livre Amboise Croizat, Justice sociale et humanisme en héritage, est paru aux éditions Jet Bleu le 14 mai 2025. Emmanuel, bonsoir.
Bonsoir Michel, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir.
Plaisir partagé. Tu préfères quel mot lorsqu'on te présente, que ce soit lors des rencontres ou des séances dédicaces ou alors d'interviews comme ce soir? Journaliste, auteur, écrivain?
Non, pas écrivain, j'ai pas cette prétention. Journaliste, c'est mon métier, et puis là, j'interviens comme l'auteur du livre en question sur Amboise Croizat. Donc tu peux dire journaliste et auteur.
Bien. L'envie d'écrire est arrivée quand chez toi?
Je peux rendre hommage à ma mère. Elle était professeure de français en collège. Et donc, elle m'a, je pense, passé cet amour de la lecture et puis de l'écriture. Et notamment, c'est vrai, quand j'ai 15 ans, je me souviens, ça m'a beaucoup marqué. On est en 1985, c'était le 100e anniversaire de la mort de Victor Hugo. Et alors évidemment, j'ai commencé à écrire bien avant, même quand j'étais petit, je me souviens d'un petit livre sur un petit lutin que j'avais écrit et dessiné moi-même, mais vraiment j'étais pas grand. Mais disons, oui, à 15 ans, quand Victor Hugo, il y a eu le centenaire de sa mort, j'ai vraiment beaucoup fait de choses autour de ce personnage. Alors évidemment, tu vois, ça place la barre un peu haut, mais moi j'écris avec infiniment, évidemment, plus de modestie. Je m'attendais pas trop à cette question, donc je m'attendais pas à remonter à Hugo. Mais remarque, c'est finalement ta question intéressante parce que je le cite à plusieurs reprises dans le livre sur Amboise Croizat. On pourrait revenir plus tard si tu le souhaites.
Je parle de l'envie d'écrire. L'envie de lire était la même?
Oui, Le Petit Prince à 7 ans, je crois que ma mère m'a fait lire et ensuite j'ai pas arrêté, ouais, effectivement.
Tu as toujours voulu devenir journaliste?
Non, je n'ai absolument pas toujours voulu devenir journaliste. D'abord, quand j'étais plus jeune, je voulais être archéologue. Et c'est toujours quelque chose qui me passionne, vraiment. Je suis allé au Mexique il y a 2 ans, les temples mayas, c'est quelque chose d'incroyable. Là, je reviens de Arles. Et la veille, donc, après avoir présenté à nouveau mon livre sur Croizat, j'ai revisité, ça doit être la 7e ou 8e fois, le musée d'Arles antique. Et si tes auditeurs cherchent une idée de visite dans les semaines, les mois qui viennent, c'est un musée pas très connu. D'une ville de province et qui est vraiment mais magnifique. Il y a des choses incroyables. Donc j'avais envie d'être archéologue. Et quand vraiment j'ai fini mes études, ça s'est passé en un été. Il fallait que je choisisse. Et j'avais hésité entre dans le milieu de la culture ou alors journaliste. J'aurais bien été commissaire d'exposition, par exemple. Et puis, à un moment donné, à 22 ou 23 ans, je ne sais plus, j'ai dû choisir. Et finalement, j'ai choisi un stage de journaliste. J'ai été pris dans deux stages d'été où j'aurais pu faire visiter, notamment un château de la Loire et puis un autre endroit où j'avais été pris. Mais vraiment, cet été-là, ça devait être l'été de mes 21 ou 22 ans, 91 ou 92, j'ai décidé finalement d'être journaliste.
Tu es journaliste à l'AFP, l'agence France Presse. Cette dernière, fondée en août 1944, a une histoire avec un grand H, puisqu'elle est issue de la séparation de l'agence Havas en deux entités. L'AFP est l'une des plus grandes agences de presse au monde. Tu peux nous rappeler le travail d'une agence de presse?
Écoute, oui, je te remercie de me poser cette question. L'AFP est née par l'action de résistants, effectivement, en août 1944. On célébrait l'année dernière ses 80 ans. Une agence de presse, si tu veux, alors la nôtre, elle a des missions d'intérêt général. Des agences mondiales, il y en a 3. Après, il y a des agences régionales ou nationales, mais des mondiales, il n'y en a que 3, dont l'AFP. Il y a Thomson Reuters aussi, qui est devenu canadien, et puis il y a AP, qui est une agence américaine. L'AFP est une de ces 3 agences mondiales, et on a des missions d'intérêt général. C'est-à-dire que on doit être présent dans le monde entier, donc on a des bureaux dans tous les pays, ou pratiquement, et puis faire un travail 24 heures sur 24. Et nos clients sont les médias du monde entier, aussi bien une agence de presse japonaise que un grand journal hispanophone d'Argentine ou un très grand journal à un tirage d'un million indien en anglais. Et on travaille dans 6 langues, français, anglais, espagnol, portugais, arabe et allemand, et principal. Et donc, on donne une information vérifiée, sourcée, et en temps réel, à un très très grand nombre de médias qui sont abonnés à l'AFP et qui ensuite l'utilisent comme bon leur semble. Aussi bien l'Humanité ou le Figaro sont abonnés en France à l'AFP, et donc, comme je te disais, aussi bien CNN que Gigi Press, l'agence de presse japonaise.
Travailler à l'AFP n'est pas un métier de journaliste comme les autres. Tu as eu une responsabilité importante dans la véracité des faits et donc de l'histoire.
Oui, oui, bien sûr. C'est la base de notre travail, de vérifier, de sourcer. Et effectivement, vérification et rapidité sont les deux valeurs les plus importantes de l'AFP et du travail qu'on doit faire, ouais, effectivement.
À l'AFP, tu as des domaines de prédilection, des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur et dont tu rencontres ?
Non, non. Il y a un système qui est tout à fait important dans notre agence, c'est que tous les 3 à 5 ans, à peu près, hein, on doit changer de poste pour éviter que le même poste reste à la même personne pendant des années et qu'il n'y ait pas de changement. Donc, par définition, on n'a pas vraiment de spécialité. J'ai travaillé à Bruxelles, j'ai été envoyé en Argentine, j'ai travaillé sur les questions d'éducation, j'ai été reporter économique. Mais moi, à titre plus personnel, c'est les questions sociales parmi celles qui m'intéressent le plus, ouais.
Ta première participation à un livre date de 2006, La France invisible, écrit par une dizaine de chercheurs et de journalistes d'investigation qui dénoncent le fossé entre les logiques sociales et les scènes politiques et médiatiques, entre le vécu des Français dans les situations de précarité et des jeunes de banlieue et leur représentation dans les discours politiques, médiatiques, statistiques. Le social est un sujet qui te tient à cœur et pas uniquement celui de la sécurité.
Effectivement, comme je te disais, alors il y avait une trentaine hein, les auteurs, c'est une trentaine de sociologues et de journalistes sous la direction de Stéphane Beau, Jade Lingard et Joseph Confavreux, ce livre, La Découverte. Et oui, moi, le social, ça m'intéresse, mais surtout, j'avais écrit beaucoup sur des ouvrières qui avaient été licenciées après la fermeture et délocalisation de leur usine. Parce que vraiment, au début des années 2000, j'ai perçu avec acuité, notamment dans le bassin minier, l'ex-bassin minier du Pas-de-Calais, autour de Lens, à quel point la mondialisation avait engendré des dégâts humains extrêmement forts et qui, en partie, d'ailleurs, explique la situation de notre pays aujourd'hui, quoi.
Alors, on te retrouve justement 10 ans plus tard à la coécriture d'un livre édité aux éditions Rive Neuve, L'Entraide, deux ouvrières dans le piège du libre-échange. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on franchit le pas et on se met à raconter l'histoire, non pas à travers un article à l'AFP, mais dans un livre? Ton travail dans La France invisible t'a donné envie d'aller plus loin?
En fait, dans les deux ouvrages, j'ai un peu traité la même chose, mais de façon très différente. C'est d'abord l'histoire de ces femmes licenciées à 40, 45 ans, par la multinationale du jean Levi-Strauss, les jeans Levi's. 3 usines belges et une usine française, la dernière en France, fermée en même temps, en 1999. Et ces femmes, ces couturières de milieu populaire, de la région lensoise, une région quand même assez pauvre, avaient 40-45 ans. Et je me suis rendu compte, en les suivant, non pas lors d'une seule interview, mais sur plusieurs mois et plusieurs années, je me suis rendu compte à quel point ça avait changé leur vie. Et notamment, plusieurs d'entre elles n'ont, je le redis, à peu près à 40-45 ans, n'ont jamais retrouvé de CDI derrière. Elles ont enchaîné des petits contrats précaires, souvent des femmes seules avec leurs enfants. Et donc, elles sont entrées dans une spirale vraiment, vraiment difficile. Alors, certains sociologues parleront de déclassement, d'autres voilà, de précarité. Et par ailleurs, cette situation est née d'une délocalisation. Et donc, de ce qu'on appelle le libre-échange, c'est-à-dire la mise en concurrence à travers des droits de douane très bas ou des quotas d'importation très bas de notre pays ou d'autres pays d'Europe de l'Ouest ou des États-Unis, par exemple, avec des pays où les niveaux de salaire, voire de protection sociale, et en plus de protection sociale, pardon, sont extrêmement bas, extrêmement différents de nos pays. Et donc, un grand nombre de multinationales ont délocalisé. Et c'est aussi ça qui, si tu veux, le livre, c'est un passage de la vie de deux personnes vers une généralisation de comment la mondialisation a touché les classes populaires en France. Et ça a entraîné des dégâts profonds. Et notre démocratie, jusqu'à présent, s'en est pas totalement remise. Voilà, encore hier, on parlait de la situation de l'acier avec cette proposition de loi pour nationaliser ArcelorMittal France. Bah, si on perd la production d'acier en France, il y a un véritable risque. Si on est dépendant totalement d'autres pays, je pense que c'est grave, à la fois pour notre souveraineté industrielle et puis aussi pour les emplois dont je parlais derrière.
En 2021, tu rends hommage à l'une des plus emblématiques représentantes de la CGT et l'un des symboles de la résistance française et du militantisme féminin à travers un livre, Martha Desrumeau ou l'émancipation, paru aux éditions J'ai Bleu. Elle avait dit, je cite, « Je n'ai jamais pris la peine d'écrire cette vie de combat, une vie à lutter contre la domination ». Tu avais envie de réparer cet oubli et de raconter sa vie qu'elle n'a pas pu ou pas eu le temps de raconter.
Oui, oui, exactement. Alors, Martha Desrumeau, donc, c'est une ouvrière du textile du Nord. Tu vois, il y a un lien avec le livre précédent, puisque la délocalisation de Lévis, bon, voilà, on était dans le secteur textile et dans le Nord. Et c'est dans mes diverses pérégrinations pour travailler avec ces ouvrières que j'en ai été amené à connaître Martha Desrumeau. Alors, donc, une ouvrière et syndicaliste CGT, une communiste, alors d'une autre époque, hein, 1897-1982. Une des plus emblématiques, peut-être pas, parce que précisément, elle était un peu oubliée. Alors, il y a un historien du nord de la France, Pierre Outéric, qui a contribué justement à la sortir de l'oubli. Et avec ce livre, je voulais raconter sa vie pour le plus grand public et aussi pour des jeunes. Ça a clairement un but un peu d'éducation populaire, un but pédagogique. Mm-hmm. Ça se veut un outil pédagogique. Et effectivement, cette femme était illettrée jusqu'à 25 ans. Elle a commencé à travailler avant même 13 ans. C'était d'ailleurs pas légal, mais son père est mort quand elle était vraiment très jeune et il fallait bien qu'elle se nourrisse et qu'elle nourrisse aussi la famille. Elle n'a appris à lire et à écrire qu'à 25 ans. Et effectivement, quand tu es ouvrier au début du XXe siècle, tu ne penses pas à écrire à la fin de ta vie tes mémoires. Tu ne penses pas à transmettre forcément ton héritage, un héritage mémoriel, hein, mais qui peut être un concept assez bourgeois. Il y a aussi des formes d'autocensure. Et donc, l'idée, c'était de raconter sa vie à sa place, mais comme si c'était elle qui parlait. Tout le livre, elle dit « je ». C'était une façon de lui permettre de faire ce qu'elle n'avait pas pu faire pendant sa vie, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle raconte dans un livre l'ensemble de son parcours.
Avec Martha Desrumeau ou l'émancipation et les questions d'histoire, tu reviens dans le passé en tout cas, tu as un devoir de mémoire.
Bah, c'est très intéressant de rappeler certaines choses qui sont parfois un peu oubliées, effectivement. C'est-à-dire qu'à travers Martha Desrumeau, mais ensuite aussi à travers Ambroise Croizat, on met en évidence le fait que le mouvement ouvrier, à travers ses luttes, ses syndicats, ses partis, a fortement, a puissamment contribué à bâtir notre modèle social, si précieux et qu'on a encore aujourd'hui. Donc c'est intéressant de se le rappeler et de montrer que c'est pas venu d'en haut, mais que c'est le résultat de décennies de luttes de millions de personnes du mouvement ouvrier que cette femme, Martha Desrumeau, ou que cet homme, Ambroise Croizat, incarne.
On retrouve ce devoir de mémoire dans ton dernier livre, Ambroise Croizat, Justice sociale et humanisme en héritage, paru aux éditions J'ai Bleu le 14 mai 2025. Cela faisait longtemps que tu voulais rendre hommage à l'un des fondateurs de la sécurité sociale ?
Non, pas forcément. Longtemps, encore une fois, il y avait un lien entre mon travail sur les ouvrières de Lévis et ensuite Martha Desrumeau. Et puis ensuite, il y a eu un lien entre ce livre sur Martha Desrumeau et celui sur Croizat. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme je te disais, avec Martha Desrumeau que j'ai pris pleinement conscience du fait que le mouvement ouvrier avait contribué à bâtir notre modèle social. Et si tu veux, une incarnation, une des plus fortes incarnations de ça, c'est quand même Croizat, à la fois parce qu'il était donc ouvrier et syndicaliste, et puis parce que, en tant que ministre, il a créé la Sécu. Alors longtemps, disons que le film, le documentaire La Sociale de Gilles Perret, que j'ai vu début 2017, il était sorti fin 2016, m'a beaucoup marqué, ça a trotté dans ma tête. Et une fois, en 2021, que j'avais fini ce livre sur Martha Desrumeau, je me suis dit, en 2025, on célèbre à la fois les 80 ans de la Sécurité sociale et les 130 ans de la CGT, hein, premier syndicat français créé en septembre 1880. 95 au congrès de Limoges. Il y a 3-4 ans que je me suis vraiment attelé à ce livre et que je me suis dit que ce serait bien de le sortir cette année.
Alors sous la couverture, en dessous de sa photo, il est indiqué la Sécu à 80 ans. Les 4 octobre, donc et 19 octobre 2025, on ne peut pas dire que les médias aient fêté cet anniversaire pas comme les autres. Les frères Lebrun et le match de foot Lens-Lille avaient plus d'importance dans le quotidien Le Monde qu'un système garantissant à toutes et à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Pour toi, c'est tout sauf une surprise.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Notamment, Le Monde, ils ont fait un très beau papier très fouillé sur la paternité de la sécurité sociale entre Ambroise Croizat et Pierre Larocque.
Les 4 et 19 octobre ?
Oui, autour du 4 octobre, tout à fait. Et puis, ah bon, les médias, c'est pas seulement la télévision. Hein. Il y a eu, il y a eu quand même, j'ai trouvé de nombreux articles. Alors oui, effectivement, si on se base que sur la télé, il n'y a pas eu grand-chose. Mais il y a eu de nombreux articles autour des 80 ans de la Sécu. Et j'en veux pour preuve que dans les archives de l'AFP, au début de l'année, j'ai retrouvé des photos à la fois représentant Croizat ou représentant des moments de la sécurité sociale au moment de sa création, notamment les premières élections en 1947 des caisses de sécu. J'ai retrouvé des photos dans les archives grâce aux iconos et aux documentalistes photos de l'AFP et à la direction de la documentation, des gens à qui je rends hommage, enfin que je remercie. On a retrouvé des photos qui étaient encore sous forme de plaques de verre. C'était une forme de négatif de l'époque et donc qui n'étaient pas numérisées. D'abord, j'en ai utilisé certaines, j'en ai utilisé 4 pour mon livre, donc de fait, elles ont été numérisées. Et puis ensuite, on en a numérisé d'autres, et aujourd'hui, elles sont accessibles. Donc, comme je disais, l'AFP, ça sert les autres médias hein, qui sont abonnés. Et plusieurs médias ont repris ces photos qui étaient encore inconnues au début de l'année, à l'occasion de ces 80 ans de la Sécu. Donc je trouve qu'on en a quand même parlé, et d'autant que notamment plusieurs petits livres intéressants sont parus aussi. Il y en a différents, mais je citerai notamment celui du brillant jeune universitaire Léo Rosel, « La Sécu, une ambition perdue ?» point d'interrogation chez J.C. Lattès. Léo Rosel qui termine une thèse sur précisément Ambroise Croizat.
Alors, l'histoire d'Ambroise Croizat est réapparue il y a peu grâce au travail de personnes, tu disais, comme Gilles Perret avec son documentaire La Sociale, ou François Ruffin, que ce soit avec France Inter, ses livres, ou le journal Fakir. Le ministre des Travailleurs avait complètement disparu de la circulation médiatique des livres d'histoire et même à la CGT. Comment expliquer cette amnésie depuis plus de 60 ans ?
Oh là, c'est particulièrement... Ouais. J'y consacre surtout un chapitre entier dans mon livre. Enfin, il y en a un qui s'appelle « Le trou de mémoire » et ensuite il y en a un qui s'appelle « Les raisons de l'effacement mémoriel ». Ça peut être long. Il y a eu une concurrence mémorielle entre le gaullisme et le communisme. Ça, on le sait sur la résistance, mais c'est vrai aussi sur la sécurité sociale. Et on a tendance à, dans le grand public, on a tendance à dire que c'est plutôt De Gaulle qui a créé la Sécu. Et vous lirez mon livre, la Sécu telle qu'elle a été créée en 45-46 en tout cas, elle est avant tout due à Croizat et Larocque, donc un ministre du Travail, CGTiste et communiste, et un haut fonctionnaire, très attaché à l'intérêt général et à l'émancipation sociale. Disons que De Gaulle a soutenu Larocque, a laissé faire, mais il n'était pas forcément d'accord avec la Sécu telle qu'elle a été créée en 45-46, à telle enseigne qu'en 67, il y a des ordonnances Jeanneney, quand il est président, qui reviennent sur des principes très importants de la création de la Sécu en 45. Donc voilà, il y a cette première chose, cette concurrence mémorielle. Deuxième chose... Croizat était un ouvrier. C'est le seul ministre du Travail qui a été ouvrier depuis 1906 que ce poste existe. Et il a un bilan social, sans doute le meilleur bilan de tous les ministres du Travail de la République, puisque donc il a contribué à créer et bâtir la sécurité sociale. Donc je vous rappelle qu'il y a 4 branches, l'assurance maladie, les retraites, les accidents du travail et les allocations familiales. Mais il a aussi créé les comités d'entreprise, il a aussi créé la médecine du travail, il a aussi décrété l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, parce qu'avant il y avait un abattement légal, une discrimination légale de 10% des salaires des femmes par rapport à ceux des hommes. Donc il a un bilan exceptionnel. Quand on voit toutes ces lois qui datent pour la plupart de 1946 et qui sont attribuables à Croizat, on voit un peu le bilan qu'il a. Et c'est vrai que parmi nos élites, voir que ce soit un ouvrier qui a un tel bilan et qui a créé de tels joyaux de notre système social, c'est pas forcément, ils n'ont pas forcément envie de le mettre en avant. En tout cas, c'est ce que dit son petit-fils Pierre Caillot Croizat, qui m'a considérablement aidé à écrire ce livre. Et puis, si tu veux, peut-être la raison la plus pragmatique, c'est que Ambroise Croizat, il est mort à 50 ans. Il est né en 1901, il est mort en 1951. Il n'a absolument pas eu le temps de préparer ses mémoires ou son héritage. À telle enseigne qu'aujourd'hui, il n'y a aucun endroit qui réunit ses notes ou ses écrits de militants, de députés, de ministres. À l'inverse, Pierre Larocque, ils ont fait un travail complémentaire ensemble. Je ne cherche à minimiser le travail pour la sécurité sociale ni de l'un ni de l'autre. C'est vraiment par leur alliance d'un mouvement ouvrier au fait de sa puissance et d'une haute fonction publique au service de l'intérêt général que la Sécu a pu être créée. Mais Pierre Larocque, lui, il est mort à 90 ans. En 1997, il a créé en 1973, enfin il a contribué à la création, il en a été ensuite le dirigeant du comité d'histoire de la sécurité sociale. Il a enseigné plusieurs dizaines d'années à Sciences Po, plusieurs dizaines d'années à l'ENA. Et si tu veux, donc, de nombreux historiens ont travaillé à partir de ces documents à lui, de tout ce travail qui a été fait. Et donc il a été à un moment donné davantage mis en avant que Croizat. En revanche, donc il y a une sorte de mémoire, si tu veux, institutionnelle qui fait un peu la part belle à Pierre Larocque, mais il y a une mémoire militante, et là c'est pour ça quand tu m'as dit que même ça avait disparu de la CGT, pas tout à fait quand même, hein. Il y a une mémoire militante à la CGT, au PCF.
Partout, dans toutes les sections locales
de... Non, pas partout, bien sûr. Il arrive encore que j'apprenne effectivement aujourd'hui à des CGTistes le rôle qu'il a eu, c'est vrai. Mais dans ce que j'appelle moi le renouveau mémoriel depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire on reparle à nouveau de lui, c'est d'abord la CGT des métaux qui a joué un rôle très important à une époque, puisque Ambroise Croizat donc, a dirigé la fédération des métaux, des métallos de la CGT. Et puis, alors, quelqu'un que tu n'as pas mentionné qui a joué un rôle important aussi, c'est un militant communiste et cégétiste de Savoie qui a grandi dans la même cité ouvrière où avait grandi plusieurs décennies avant Ambroise Croizat, qui s'appelle Michel Etiévant. Et c'est vraiment lui qui a sorti Croizat des catacombes de l'histoire, selon l'expression du documentariste Gilles Perret, qui lui ensuite a fait le documentaire La Sociale. Et donc, Etiévant a joué un rôle important dans ce renouveau mémoriel de Croizat. Avant mon livre, c'était le seul livre qui existait, la seule biographie qui existait sur Ambroise Croizat. Donc la mienne, c'est la deuxième. Et il n'y avait encore aucun universitaire qui avait travaillé là-dessus. Et je vous dis, Léo Rosel termine une thèse.
L'histoire d'Ambroise Croizat est celle d'un homme qui s'est toujours mis au service des autres et de son pays et s'est toujours battu pour ce que l'on appelle acquis sociaux et ce que lui appelait conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais. Il avait un sens du collectif et de la solidarité qui est bien mal en point aujourd'hui.
Oui, alors ça me fait plaisir parce que je vois que tu as effectivement bien lu le livre. C'est toujours... Et je te remercie, je t'en suis très reconnaissant.
Non, je suis pas le seul quand même, j'espère.
Ah non, 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 au contraire, je suis surpris par le succès un petit peu du livre puisqu'on avait, on avait tiré à 4000 exemplaires et au bout de 4 mois, ils étaient épuisés. Donc on a retiré 5000. Comme tu dis, non, oui. Je dirais pas que la solidarité est mise à mal. Je dirais que les politiques qui sont menées par nos gouvernements successifs ne sont pas à la hauteur et ont tendance plutôt à affaiblir la sécurité sociale plus que la défendre et la renforcer. Une chose importante, c'est que c'est assez étonnant, mais il y a peut-être certaines phrases attribuées à Croizat et qui sont devenues assez célèbres même, notamment celles dont tu parlais sur les conquis sociaux. Moi, en tout cas, j'en ai pas retrouvé la source. Donc à ce stade, je considère par exemple que cette phrase, elle est apocryphe, mais peut-être que des recherches ultérieures permettront d'en retrouver la source. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était une phrase qui a été réellement prononcée par Croizat, d'autant plus que le terme « conquis » n'était pas un terme utilisé dans les années 40 et tout début des années 50. Donc voilà, mais en tout cas, comme je le dis dans mon livre, elle correspond tout à fait à l'esprit de ce que défendait Ambroise Croizat.
La sécurité sociale a été mise en place donc avec les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945. Il a fallu du monde pour l'organiser et la lancer dans tous les départements. On oublie que sans la CGT et ses adhérents, elle n'aurait jamais pu se mettre en place.
Oui, c'est vrai. Dans les premiers mois de 1946, alors ça a été quand même fortement rappelé dans ce documentaire dont je parlais qui s'appelle La Sociale, notamment avec ce personnage haut en couleur qui a témoigné peu avant son décès, Jolfred Frigonara, qui a témoigné à 96 ans. Il avait contribué... à bâtir, il a été le premier dirigeant de la caisse de sécurité sociale de Haute-Savoie à Annecy. Effectivement, alors si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'en étant ministre du Travail, Croizat n'a pas réellement quitté la direction de la Fédération des métaux de la CGT. Et comme ministre du Travail, il était attaché à faire avancer les revendications de la CGT. Et donc, quand la Sécu est créée, il y a vraiment, comme en plus la sécurité sociale de 45-46, ses principes, c'est on accorde la gestion aux assurés, des caisses aux assurés à travers leurs syndicats. En l'occurrence, à travers les deux syndicats qui existaient à l'époque, la CGT et la CFTC. Mais le fait d'avoir un ministre qui est cégétiste au travail et qui va bâtir la sécu, ça a créé un formidable engouement. Et effectivement, pour créer ces caisses de sécu... À l'époque, les militants de la CGT ont joué un rôle absolument central. Et c'est quelque chose qui a été un petit peu oublié, mais qui est maintenant bien remis au goût du jour. Et je le note à plusieurs reprises dans mon livre.
Depuis tous les ans, en France, est voté le fameux projet de loi de la sécurité sociale qu'on appelle le PLSS. Il est plus souvent question de baisse des dépenses que d'augmentation des recettes nécessaires pourtant à son évolution sans cesse grandissante et à ses besoins. La sécurité sociale n'appartient plus aux cotisants mais à l'État. Ce n'était pas ce que souhaitait Ambroise Croizat.
Alors non, effectivement, pas du tout. Le projet de 45-46, c'est une socialisation, c'est-à-dire c'est la gestion de la sécurité sociale par les assurés, par les caisses de sécurité sociale par les assurés à travers leurs représentants syndicaux. Je rappelle qu'il y avait 75% des sièges pour les syndicats et 25% pour le patronat. Nicolas Da Silva, dans son livre « La bataille de la Sécu », explique bien ça. Et cette gestion socialisée a duré jusqu'en 1967, Je disais tout à l'heure que donc les ordonnances Jeanneney, sous la présidence de De Gaulle, reviennent sur cette d'abord sur l'élection au suffrage universel, puisque c'était le cas, hein, à partir de 47, des dirigeants des caisses de sécu. Et ils ne sont plus que nommés ensuite. Et puis on passe à ce qu'ils appellent le paritarisme 50-50, mais vous voyez bien que c'est pas la même chose que 75-25 en termes de rapport de force. Et dans un deuxième temps, le plan Juppé de 95-96, lui, va carrément étatiser la gestion de la sécurité sociale par la création notamment du PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et effectivement, là, c'est l'État qui a totalement repris la main, notamment aussi en transférant de la cotisation sociale sur de l'impôt pour financer la sécurité sociale. Et alors là, c'est un point de vue personnel. Je me suis mis un peu dans la peau d'Ambroise Croizat et je me demande ce qu'il en aurait pensé aujourd'hui. De fait, cette étatisation n'a pas très bien marché puisqu'on nous fait des réformes des retraites après réforme des retraites depuis 25 ans. On nous explique qu'il y a tout le temps des déficits de l'assurance maladie et qu'on n'arrive pas à les résorber. En réalité, l'État a transformé, cette gestion par l'État a transformé vraiment la philosophie de la sécurité sociale. Je vais t'expliquer en quoi. En 45-46, ce que crée Croizat et Larocque, c'est vraiment de dire on place les besoins humains en premier et ensuite le financement doit suivre par l'augmentation des taux de cotisation. À partir de 95-96 et une gestion étatisée, on fait en fait l'inverse, notamment pour l'assurance maladie à travers l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. On fixe un plafond de dépenses maximale et on doit en fait y adapter les besoins. C'est-à-dire que la satisfaction des besoins dépend de ce plafond budgétaire et c'est pourquoi, voilà, depuis, on ne cesse de fermer des lits d'hôpitaux, fermer des maternités, dérembourser des médicaments, augmenter les franchises médicales sur des médicaments ou des consultations. Et donc, on ne parle qu'en termes de dépenses. Le trou de la sécu, un vocabulaire intentionnel qui, à mon sens, est là en fait pour fragiliser ce joyau pourtant qui est une richesse pour tous les Français. Donc je pense qu'il ne faut pas parler en termes de coûts mais de richesse. Et notamment, on nous parle tout le temps que de dépenses. En grande partie, le débat médiatique et politique est saturé par cette question des dépenses. Mais s'il y a certaines années des déficits, c'est depuis deux décennies grandement en raison d'un assèchement des recettes, d'un manque de recettes. On ne dote pas assez la sécurité sociale, on ne lui donne pas les ressources qu'il faudrait, notamment des exonérations de cotisations sociales non compensées, mais aussi des hausses de revenus comme sur l'épargne salariale, l'intéressement ou différentes sortes de primes qui ne sont pas soumises à cotisation. Également la modération salariale globale qui fait qu'il y a aussi moins de cotisations qui rentrent. Et de ce fait-là, par ce manque de recettes, on crée finalement intentionnellement des déficits et on a du coup des discours alarmistes et anxiogènes, alors que si la sécurité sociale était correctement dotée, on n'aurait pas ces problèmes-là. Et les Français sont énormément attachés à leur sécu, à 88% dans une période de défiance envers de nombreuses institutions. C'est une institution qui reste éminemment chérie par les Françaises et les Français. Et c'est pas un hasard si à chaque fois que les gouvernements, les uns après les autres, essayent de faire passer des réformes régressives sur les retraites ou l'assurance maladie, à chaque fois, que ce soit dans les mobilisations sociales ou dans les sondages, les Français y sont opposés parce qu'ils estiment que il faut garder leur sécu et notamment celles qui étaient les principes qui avaient été créés après-guerre.
Depuis la sortie de ton dernier livre, tu es parti en croisade pour le présenter et fêter en même temps les 80 ans de la sécu. Le public répond présent.
Alors en croisade, alors si tu veux, en Ambroise croisade, mais il n'y a rien de religieux dans mes interventions. Les gens sont intéressés, c'est assez étonnant. Alors évidemment, un public parfois militant CGT, PCF, mais pas uniquement. Hein, la Ligue des droits de l'homme, les comités de défense des hôpitaux, des élus écologistes. Récemment, une trentaine d'élus, dont 20 sont du centre et de la droite, ont écrit au président de la République pour demander la panthéonisation de Ambroise Croizat. De nombreuses communes attribue des noms de rues ou de bâtiments à Croizat en cette année 2025 et 80 ans de la sécu. Donc effectivement, il y a véritablement un engouement. Et comme disait son petit-fils Pierre Caillot-Croizat, Croizat, il rassemble, même au-delà des forces de gauche, il rassemble parce qu'il a créé, encore une fois, comme je disais juste avant, une institution avec le haut fonctionnaire Pierre Larocque. Il a créé une institution qui est véritablement chérie des Français. Elle a changé la vie des classes populaires après-guerre. Notamment, on a assisté à une forte augmentation augmentation historique, inédite de l'espérance de vie qui est passée en quelques décennies de 60 ans à 80 ans et une très forte baisse de la mortalité infantile. Si on veut continuer à avoir un système de santé qui fonctionne très bien, un parmi les meilleurs du monde, et il a été un peu fragilisé quand même ces dernières années, il faut défendre et même renforcer la Sécu.
Il y a des jeunes parmi le public présent pour fêter les 80 ans de la Sécu ?
C'est une excellente question, Michel. Je te remercie de me l'avoir posée. C'est vrai qu'il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là. J'ai fait, je pense, une quarantaine d'interventions déjà depuis le mois de mai. C'est vrai que les publics sont parfois âgés. Ça dépend des endroits. Les jeunes générations semblent avoir oublié cette histoire. C'est un acquis quotidien, la carte vitale. La gratuité presque entière des soins, c'est pas tout à fait le cas, mais en grande partie, le fait qu'on sorte sa carte vitale et quand on va chez le médecin ou quand on va à l'hôpital et non pas qu'on sorte sa carte bancaire, ce qui est le cas des Américains. Et c'est vrai que y a un oubli chez les jeunes générations. Et pour l'instant, dans mes interventions, en tout cas dans ce qui a été mis en place là où je suis allé, on n'a pas encore totalement réussi à répondre à cette question. Pourtant, donc j'ai fait un livre que je souhaitais très pédagogique, d'éducation populaire. On l'a mis à partir de 15 ans. On a fait une graphie très espacée. J'ai essayé de faire une écriture assez fluide avec des phrases courtes. Souvent, la Sécu, on la cache un peu, on la complexifie intentionnellement avec un vocabulaire très compliqué, technocrate. Le tiers payant, souvent les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Le déremboursement, le ticket modérateur. Bon, j'utilise pas trop ces termes. J'essaye vraiment à travers la vie de croisade. De toute façon, c'est pas que la Sécu, je vous l'avais dit, c'est les comités d'entreprise, c'est toute sa vie aussi. C'est ses années de prison pendant la guerre. Donc, j'ai essayé de faire un livre à hauteur vraiment humaine. Et donc, j'ai essayé de faire un livre à partir de 15 ans pour essayer justement d'attirer et de faire connaître cette histoire aux jeunes générations. Alors de nombreuses personnes l'achètent pour leurs enfants ou petits-enfants. Ça par exemple, je l'ai vu à Arles hier, c'était impressionnant. La moitié des achats concernaient des cadeaux pour Noël aux enfants ou aux petits-enfants. Donc ça peut passer aussi par là. Il ne faut pas avoir une vision pessimiste des choses. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment effectivement faire connaître l'histoire et les principes de notre sécurité sociale aux jeunes générations, et je vais m'y atteler dans les mois qui viennent, et j'incite tout le monde intéressé par la défense de notre belle Sécu à faire de même.
Es-tu sur l'écriture d'un nouveau livre ?
Pour l'instant, non, parce qu'on a un projet avec un ami co-réalisateur, je vais co-réaliser, qui s'appelle donc Aubin Hello, et une société de production qui s'appelle La 8. On va faire un film, un long-métrage documentaire sur la vie d'Ambroise Croizat. Donc ça sera pas comme La Sociale, où il y avait une partie sur Croizat, mais qui était surtout sur la Sécu. Ça va être comme mon livre, vraiment sur sa vie, ses origines en Savoie, le fait que son père ait voulu créer des syndicats et qu'il a été licencié et que ça avait marqué beaucoup le tout petit Croizat. Il avait 5 ans au début du XXe siècle, mais aussi sur les années du Front Populaire, quand il a été élu député, mais aussi sur ses années notamment de... Il a fait 3 ans et demi de prison pendant la guerre. Donc ça va vraiment être sur sa vie. L'idée, c'est de faire un long métrage cinéma d'une heure et demie et une version télé de 52 minutes. Et on a donc lancer un financement participatif. Si des auditeurs de Radio B sont intéressés, ils peuvent aller voir sur le site ProArti, P-R-O-A-R-T-I, dans le projet Étape Croizat, et ils peuvent nous soutenir. On commence à avoir quasiment atteint le montant des fonds qu'on voulait avoir, mais si on peut le dépasser, ce serait très bien pour avoir des bons moyens pour faire ce film. On verra si derrière, j'ai un nouveau projet de livre. Ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est d'expliquer que le libre-échange, ça marche pas pour la France. Il faut vraiment essayer de passer à des politiques protectionnistes fortes, comme j'ai dit tout à l'heure sur l'acier, sur le textile. Quand on voit Chine, on nous explique, on voit bien en fait, on en vient à ne même pas pouvoir limiter le nombre de colis reçus chaque jour de Chine par des plateformes comme Chine, mais au final c'est simplement le libre-échange et le niveau quasiment nul de droits de douane depuis des décennies dans notre pays sur le textile et pas seulement, qui pose ce problème. Donc pour régler ce problème, il faut en revenir aux politiques de départ, qui sont des politiques libre-échangistes, et il faut faire davantage de protectionnisme. Peut-être que je vais faire un livre là-dessus, d'autant plus que longtemps j'ai pensé que ça ne touchait finalement que les questions d'emploi et de salaire dans notre pays, c'est-à-dire que ça crée du chômage, le libre-échange et la délocalisation, ça incitait à la modération salariale, au déclassement, à la baisse des salaires, mais j'ai vraiment pleinement compris aussi en travaillant sur Croizat que ça met en fait directement en danger notre protection sociale. Un pays comme la Chine ou d'autres pays à bas coût comme la Turquie ou comme d'autres pays de cet ordre n'ont pas seulement des travailleurs extrêmement et des travailleuses extrêmement bien formés et qui coûtent au niveau de salaire beaucoup moins cher. Ils et elles n'ont pas non plus le même niveau de protection sociale que nous avons dans notre pays. Et donc, la mondialisation libre-échangiste, elle met gravement en danger notre protection sociale. C'est pour ça aussi que notre démocratie, maintenant, est arrivée à un point de rupture, parce qu'on ne peut plus continuer ainsi. Les classes populaires dans ce pays payent un prix trop élevé à cette situation, et il faut remettre des politiques de protection industrielle et agricole pour que les salaires puissent à nouveau augmenter, que la protection sociale soit défendue et qu'on revienne à du progrès social, alors que c'est des reculs sociaux à n'en plus finir qui se multiplient dans notre pays depuis 30 ans.
Tu aurais envie d'écrire des romans avec tes propres histoires et non celles des autres ?
Non, je crois pas. Comme je viens du journalisme, j'ai plutôt tendance à vouloir travailler quand même sur le réel. Mais c'est à réfléchir, mais à ce stade, non.
Bien. Alors tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle. Là sur le quai, épaule contre épaule. Sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure. Sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. Emmanuel, quel est ton dernier coup de cœur littéraire ?
Je ne sais pas si c'est littéraire, mais il y a beaucoup de choses très créatives et intéressantes qui se font en ce moment au niveau des romans graphiques. Et notamment, alors un coup de cœur important, c'est le travail fait autour de Madeleine Riffaut, notamment Dominique Bertaille au dessin et J.D. Morvan au scénario, ont recueilli le témoignage de cette incroyable résistante et journaliste communiste juste avant sa mort. Il raconte sa vie dans des romans graphiques, je trouve, exceptionnels. Ils en sont au tome 4, donc je vous incite vraiment à les lire. Ça m'a beaucoup plu, mais je rajouterais quelque chose qui est peut-être un peu moins connu. Un livre sur la colonisation espagnole au Mexique et la façon dont les peuples autochtones, les Mexicas, les Mayas, ont résisté à ça et comment notamment les premiers codex ont été écrits, qui étaient des livres qui retraçaient la vie des Indiens, des indigènes au Mexique avant l'arrivée des Espagnols. Et un somptueux et très très pertinent et bien fait roman graphique est sorti récemment qui s'appelle Les Sentiers d'Anahuac, que je vous recommande chaudement.
Côté proposition de la quinzaine, notons le roman d'Hilaria Tutti, Les Femmes d'Endell Street, aux éditions Stock, le thriller de David Bello, Papillon de nuit, aux éditions Tornada, le roman de Jean-Bernard Pouy, Nictemer, aux éditions Moby Dick, le polar d'Ismaël Lemonnier, Memento Vivere, aux éditions Tornada, le roman de Momalo, La Braise Brigade, L'Ombre des Remparts, aux éditions Point, le thriller de Patrick S. Vast, Trouble Fête, aux éditions Tornada, le livre de Judith Pérignon, L'Autre Amérique, aux éditions Grasset, le thriller de Colin Gattel, Le Sang des Génies, aux éditions Books on Demand, le roman de Romain Slocombe, Sadorski chez le docteur Satan, aux éditions Point, le livre de Marc Woltenhauer et Benjamin Amiguet, 22 itinéraires autour du polar en Europe et à ne pas manquer, aux éditions 111 lieux, le thriller de Valentin Musso, Dernier été pour Lisa, aux éditions Point, le roman de Jean-Marc Sauvira, Murti, aux éditions Fleuve Noir, le polar de Davide Longo, Les Jeunes Fauves, aux éditions Point, le roman de Sophie White, Vers ma fin, aux éditions Fleuve Noir, le thriller de Jakub Zamalek, Saturation totale, aux éditions Point, le roman d'Arbon, Les derniers jours de Harry Yuan, aux éditions Au diable Vauvert, le livre Julia Cage et Thomas Piketty, Une histoire du conflit politique, aux éditions Point, la biographie de Sylvain Kassendutsch, footballeur messin estéphanois, Derrière le masque, aux éditions Des Parèges, le livre de Philippe Martinez, Mon tour de Gaulle, aux éditions Plomb, le roman de Tracy Sierra, L'intrus, aux éditions City, le polar historique d'Harry Lovenbruck, Le fantôme de Versailles, aux éditions XO, le roman de Marlène Charine, De ma famille, aux éditions Calman Levy, le polar de Florian Denison, La liste, aux éditions L'Oiseau Noir, le roman de José Fraîche, La présidente, aux éditions XO, le livre de Clément Viktorovitch, Logocratie, aux éditions du Seuil, et le roman de Michel Pedignelli, Le pire des crimes, aux éditions La manufacture de livres. Eh bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Manuel de Foulois, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare. Rappelons que ton dernier livre, Ambroise Croizat, Justice sociale et humanisme en héritage, est paru aux éditions G Bleu le 14 mai 2025. On peut se procurer où, sans oublier les autres livres ?
Oh bah écoute, dans toute librairie, mais la librairie commande auprès des éditions du G Bleu qui sont à Lille et vous l'obtenez comme ça.
On peut citer la librairie Buffet quand même.
Tout à fait, c'est là où nous sommes donc aujourd'hui et je les remercie de leur accueil, notamment Valérie Frère-Jean et toute son équipe. Librairie Buffet à Oyonnax où je suis bien content d'être ce soir avec toi Michel.
On peut suivre ton actualité sur internet via ta page Facebook.
Oui, tout à fait. Je mets à intervalles réguliers les dates qui sont fixées pour mes interventions. Et je voulais rajouter aussi que l'humanité devrait consacrer un hors-série à Ambroise Croizat en février prochain. Pardon, excusez-moi. Une dernière chose, effectivement, que je voudrais ajouter, c'est que pour moi, vraiment, 1946 a été l'année Croizat. Je fais une liste exhaustive telle qu'à ma connaissance, elle n'avait jamais été faite auparavant, des lois qui lui sont attribuables, quasiment du début de l'année à la fin de l'année. Elles sont extrêmement nombreuses et donc je pense important qu'en 2026, on y pense et que d'une certaine façon, on célèbre les 80 ans de l'année Croizat et qu'on se rappelle toutes ces lois si importantes qui sont au fondement de notre modèle social.
Merci en tout cas à la librairie Buffet de Oyonnax, Valérie, Anne-Juliette, Marcellino et Margot de nous avoir accueillis dans les salons de cette institution oyonnaxienne. Emmanuel, une librairie indépendante, c'est important pour vous d'y être ?
C'est absolument crucial. La France, de ce point de vue-là, est un modèle hein, avec le prix du livre et avec ce réseau extrêmement important de librairies indépendantes. Et j'essaye de répondre le plus possible aussi aux sollicitations des unes et des autres. Et achetez vos livres dans les librairies indépendantes, soutenez-les. C'est comme ça que le système du livre et les auteurs et les maisons d'édition vont pouvoir continuer à travailler correctement.
Emmanuel, bonne chance pour la suite de tes aventures de journaliste et d'auteur.
Merci beaucoup, merci pour ton invitation, ça m'a fait très plaisir, c'était une bonne demi-heure de discussion. Et merci à Librairie Buffet encore une fois.
Bonne séance dédicace et à bientôt sur Radio B.
À bientôt, merci Michel.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Avec moi dans la chambre close.